Bienvenue dans l'émission Loin des clichés, un podcast qui vous présente les histoires de vie des personnes accompagnées par l'association Le Mail. Dans chaque épisode, nous vous invitons à découvrir les galères, les défis, mais aussi les revanches sur la vie de parcours atypiques. L'association Le Mail a pour but de préserver et d'améliorer la santé des personnes présentant des conduites addictives, des maladies chroniques et d'accompagner aussi leur entourage.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est dans un épisode un peu spécial de Loin des clichés. C'est une table ronde, une discussion. Je reçois aujourd'hui les professionnels de l'association Le Mail et on va discuter de l'accompagnement pluridisciplinaire en addictologie. Donc l'association Le Mail est à Amiens, c'est une structure spécialisée dans la prévention, le soin et la réduction des risques qui propose un accompagnement médico-psychosocial gratuit et confidentiel. Bonjour à tous, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je suis Stéphanie, je suis éducatrice spécialisée sur le centre de soins et d'accompagnement de prévention en addictologie, le XAPA. J'interviens essentiellement sur Amiens et je travaille également sur Péronne.
Bonjour, je m'appelle Alafia, je suis psychologue à la consultation jeunes consommateurs plus particulièrement. J'interviens effectivement aussi sur Amiens et puis dans d'autres secteurs de la Somme aussi, voilà, principalement avec des jeunes de 15 à 25 ans.
Bonjour, moi c'est Margot, je suis infirmière au CARUD. Donc le CARUD, c'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue et au XAPA, qui est du coup le siège de l'association. Je suis également tabacologue et je fais aussi des fibroscans, qui sont des échographies du foie. C'est un projet qui a été mis en place il n'y a pas si longtemps.
Bonjour, moi du coup c'est Roman, infirmier au XAPA et à 50% et à 50% infirmier coordinateur sur une nouvelle mesure qui a été mise en place, des injonctions thérapeutiques.
Bonjour, moi c'est Edwige, alors éducatrice spécialisée au CARUD, donc c'est le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Alors principalement au CARUD d'Amiens qui s'appelle La Parenthèse et au CARUD Abbeville qui s'appelle aussi La Parenthèse puisque c'est le même. J'interviens aussi sur le milieu festif, donc les festivals autour de la Somme et aussi sur l'intervention le jeudi soir à Saint-Leu. Voilà.
Bonjour, alors moi c'est Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Alors je travaille à mi-temps sur le CARUD, donc avec mes collègues qui ont présenté le CARUD avant, et donc essentiellement sur Amiens pour ma part. Et après je suis sur un autre mi-temps sur le centre de soins, mais je travaille surtout avec le public justice, donc en milieu carcéral, la maison d'arrêt d'Amiens notamment, et puis avec des gens qui sont en placement extérieur, donc en obligation de soins, mais dans un cadre particulier puisque c'est un aménagement de peine où ils sont hébergés par une association et donc un suivi en lien avec leur addiction avec l'association Le Mail.
Donc, on l'a vu, vous avez tous et toutes des métiers différents dans des parcours, dispositifs différents du MAI. Aujourd'hui, on se retrouve aussi surtout pour parler de la pluridisciplinarité dans l'accompagnement des addictions. Selon vous, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurices ce que c'est la pluridisciplinarité et son intérêt surtout ?
La pluridisciplinarité, c'est vraiment pour moi, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est-à-dire que on est un peu obligé de travailler avec les autres. C'est-à-dire que des autres professions. Moi, je suis infirmière. J'ai des collègues, éducateurs, psychologues, assistantes sociales. Et pour moi, en fait, on ne fait un peu qu'un dans le sens où on partage les tâches, mais dans le même intérêt pour l'usager, c'est-à-dire dans sa prise en charge, en fait. Et oui, du coup, pour moi, c'est clairement important déjà aussi de comprendre le travail de ses collègues et du coup que les collègues aussi comprennent ce qu'on fait, nous. Parce que, mine de rien, le travail n'est pas le même. Même si, voilà, on agit dans un même intérêt, le travail qu'on fait n'est pas le même. Mais pour moi, ça rejoint totalement la prise en charge, quoi, de l'usager. Donc
Bah, c'est ce qui fait la force de l'association finalement et son et la base de son engagement, c'est-à-dire que ça a toujours été pluridisciplinaire. L'accompagnement a toujours été pensé comme ça, c'est-à-dire que une personne qui vient à l'association aura rarement un seul suivi avec une seule personne ou un seul intervenant. On part du principe que pour aider, pour l'accompagner au mieux, il faut au minimum un éducateur, un psychologue, un infirmier, parce que une personne, elle se résume pas juste à son corps, elle se résume pas juste à sa place dans la société, elle se résume pas que non plus à ce qu'elle pense ou sa psychologie. Une personne, elle est beaucoup plus complexe. Donc forcément, si on veut l'accompagner et qu'on prend que l'aspect médical, bah forcément on va passer à côté d'autres choses. On prend que l'aspect social aussi, on va donc l'idée, elle est là, c'est que quand on travaille en pluridisciplinarité, c'est le mot, il est compliqué,
mais il est chiant,
voilà. Donc qu'on travaille en équipe, voilà. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant que ce soit pour nous, parce que comme tu disais, on apprend aussi des uns et des autres, et ça permet quand même une ouverture d'esprit qu'on n'aurait pas si on travaillait tout seul, ou en tout cas un regard différent. Et puis après, ça apporte aussi pour les personnes qui viennent, parce que voilà, ça leur offre une possibilité de rencontre avec un psychologue, avec un éducateur, avec des infirmiers, des médecins dans le même endroit, sans aussi avoir besoin de faire 50 endroits différents pour rencontrer plusieurs personnes et plusieurs métiers différents, quoi.
L'aspect thérapeutique, du coup, ça reste quand même une histoire de rencontre, et donc peu importe le professionnel, chaque personne va rencontrer d'abord un être humain, et du coup l'intérêt de la pluridisciplinarité, c'est que il rencontre des gens qui ont des formations différentes, donc qui ont des compétences qui se complètent, et le fait de travailler en équipe, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus global, et aussi ça permet de rencontrer des personnes différentes, parce que même quand on va chez son médecin par exemple, l'intérêt, c'est de se sentir bien, se sentir en confiance, pouvoir déposer des choses, et donc peu importe le professionnel qu'on rencontrera, il faut aussi se sentir à l'aise.
Non, du coup c'est exactement ce que j'allais dire, c'est surtout une rencontre en fait, et du coup c'est une richesse qu'on a de pouvoir proposer aux usagers cette richesse de pouvoir rencontrer plusieurs personnes, et même pour nous en tant que professionnels, c'est une richesse de pouvoir travailler en équipe sur des situations qui sont souvent assez complexes. Il y a souvent des histoires de vie quand même qui sont assez difficiles, et de pouvoir en échanger avec les collègues, c'est quand même beaucoup plus agréable.
C'est aussi hyper important pour nous de la question de l'institution et la question de la pluridisciplinarité, parce que ça permet de mettre du tiers dans la relation. C'est quand même des rencontres qui sont très engageantes, parfois de l'ordre de l'intime dans les échanges, et donc le fait de pouvoir se soutenir et se servir aussi de la notion de tiers. On n'est pas dans une rencontre en duel lambda, on est dans un cadre particulier, en tant que infirmier, en tant que médecin, en tant qu'éducateur. Donc ça permet d'accompagner la personne, de lui offrir un lieu neutre aussi. Alors on essaye de dégager un petit peu des enjeux du regard de la société, du jugement, et parfois aussi des injonctions liées à la loi. Et nous, on a cette liberté du coup de pouvoir proposer un lieu où les gens ont plus de facilité à se livrer, ce qu'ils peuvent pas toujours faire auprès de, par exemple, leur famille, leurs proches.
Et puis aussi, la pluridisciplinarité s'arrête pas forcément dans les murs de l'asso. Pour moi, elle est un petit peu aussi en dehors, parce que quand par exemple j'ai un usager qui vient, qui a un souci de santé, etc., je vais l'orienter forcément sur une structure médicale, et c'est ça aussi la pluridisciplinarité, c'est de travailler aussi avec d'autres personnes, d'autres professionnels en dehors de l'association. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est bien aussi de pouvoir s'orienter vers des personnes qui sont aussi très compétentes dans ce qu'ils font, de ne pas s'arrêter à l'association, quoi. Enfin, c'est aussi en dehors.
Et justement, si on part sur ça, vous pouvez donner un exemple, si par exemple il y a un de nos auditeurs ou auditrices qui écoute et qui sent qu'il y a un problème avec une addiction, c'est quoi le parcours, et comment en fait tous vos métiers seront complémentaires? Par exemple, si moi demain j'ai un problème avec une addiction, je viens, qu'est-ce qui va se passer?
Alors chez nous, on rencontre en premier lieu souvent, on va dire, un travailleur social pour faire un point sur sur la situation de la personne, parce que chaque personne qui vient a une situation différente et individuelle, donc ça permet de faire le point déjà sur sa situation. Et ensuite, le travailleur social oriente vers les autres intervenants, parce qu'on n'a pas forcément tous besoin d'un médecin tout de suite. On n'a pas besoin il y a des personnes qui sont aussi réticentes à aller voir un psychologue également, parce que c'est pas une démarche qui est simple des fois on n'en est pas là. Donc du coup c'est le travailleur social est quand même central dans la démarche de la personne, parce que c'est ce qu'on appelle chez nous les référents. Ça veut dire qu'il y a quand même une personne référente de son parcours à l'association. Et cette personne-là, ensuite, va essayer d'aiguiller au mieux pour accompagner la personne vraiment de manière individuelle et adaptée à sa demande, à son profil, à ses envies. On part toujours de l'envie de la personne, en fait, si elle nous dit que, même si nous, on sait que c'est peut-être mieux qui est un suivi psychologique ou un suivi médical ou une hospitalisation, ce serait plus adapté pour la personne. Mais si la personne nous dit que là, c'est pas du tout sa volonté, c'est pas du tout ce qu'il souhaite, il n'y a pas de souci. En fait, on fait vraiment, on s'adapte à la personne. Et c'est vrai que c'est un peu le parcours à l'association, c'est qu'on fait vraiment, on accompagne par rapport à la demande de la personne avant tout. Donc on ne sait pas ce qui est mieux pour elle, à part elle, quoi. Donc du coup, le but c'est ça, c'est d'accompagner, et c'est pour ça qu'on met pas non plus en priorité. Souvent ils arrivent avec une demande, on pense à l'addiction, on pense à une demande médicale en priorité. C'est souvent comme ça qu'on voit les choses, c'est-à-dire que vu qu'il est addict à un produit, forcément c'est un médecin avant tout. Alors que nous, on essaye un petit peu, l'idée c'est de décaler un petit peu cette demande là, parce que ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est que il y a le corps. Mais une fois que le sevrage, finalement, une fois qu'on enlève le produit, le produit, on peut l'enlever de son corps en quelques jours, mais après, c'est après, une fois que le produit n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, la vie, elle n'a pas changé, il y a plein de choses à prendre en compte, et c'est ce travail-là qu'on essaie de faire en amont, avec la rencontre du travailleur social en première intention, parce que ça permet d'évaluer un petit peu, de prendre en compte, on va dire, tout l'aspect autour, pour avoir des éléments sur la vie de la personne avant de lui proposer un accompagnement justement pluridisciplinaire.
Il y a aussi le travail du aller vers. Bon, par exemple, si je prends les missions des CARUD, c'est d'aller vers, c'est de faire des maraudes, d'intervenir parfois dans des milieux festifs. Et c'est vrai que ça peut libérer la parole, donc des personnes qui nous rencontrent, qui parlent d'addiction, de personnes qu'ils connaissent, qui ont des addictions. Et nous, notre travail aussi, c'est d'écouter, d'orienter. Donc c'est vrai que aussi le travail du aller vers, c'est une première porte d'entrée pour accompagner et aussi déceler s'il y a des addictions et comment on peut accompagner la personne globalement, justement par la pluridisciplinarité, c'est l'accompagnement global avant tout. Voilà.
En fait, en fonction des services ou de la demande, ça fonctionnera un petit peu différemment. Par exemple, aller vers, c'est un petit peu différent, mais ceux qui viennent au centre de soins ou à la CJC, l'accompagnement va se faire sous la forme d'entretien. Donc ils arrivent, quand ils font une demande, ils sont vus en premier par le référent, donc le travers social. L'idée c'est que celui-ci voit un petit peu la suite, évalue les besoins et voit un petit peu comment on s'organise pour la suite.
Petite question, c'est quoi le CJC ?
La CJC, c'est la consultation jeune consommateur. Donc, comme disait Mathieu, il y a différentes portes d'entrée à l'association. Donc, il y a le XAPA. Généralement, on différencie le XAPA de la CJC plus par rapport à l'âge et peut-être aussi le rapport à la consommation. Ce qu'on dit, c'est ça, c'est on fait l'évaluation finalement de la demande, elle est surtout là-dedans, plutôt dans où en est la personne par rapport à ses consommations. Si c'est une consommation qui est assez récente, j'ai envie de dire, dans son parcours, et souvent quand c'est assez récent dans son parcours, c'est souvent des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, parce que c'est à peu près l'âge des débuts des consommations. On a tendance plutôt à les envoyer vers la consultation jeune consommateur. Après, nous, on reçoit jusqu'à 25 ans. Et c'est là où justement après 18 ans, bah là c'est suivant aussi le rapport au produit, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui peuvent arriver qui ont 19-20 ans et qui ont déjà un parcours de consommation derrière eux qui est quand même assez conséquent, qui ont commencé peut-être à 12 ans. Donc finalement quand ils arrivent, ils ont 20 ans, ils ont déjà 8 ans de parcours de consommation derrière eux et ils sont pas dans la même démarche que quelqu'un qui a 20 ans et qui a commencé à 17 ans, qui a que 3 ans de parcours de conso. Donc finalement l'évaluation elle se fait surtout là et l'orientation elle se fait surtout à ce moment-là. Et du coup, pareil aussi pour le CARUD, finalement, ceux qui vont au CARUD, c'est-à-dire dans un centre, rappelle-moi ce que ça veut dire.
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue.
Voilà, c'est des personnes qui, la porte d'entrée se fait plutôt dans l'accueil, l'aller vers justement, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne sont pas forcément demandeuses d'un parcours de soins tel qu'on peut l'entendre avec des entretiens, avec des choses de la sorte, mais qui ont quand même un accompagnement qui est différent, mais qui est quand même là. Donc on part toujours de l'évaluation de la personne et ce qu'elle souhaite en fait, où est-ce qu'elle en est de son parcours, et c'est ça qui priorise les portes d'entrée, j'ai envie de dire, c'est suivant là où elle en est, quoi.
Et si on parle justement un petit peu de ton rôle, notamment tu es plutôt axé sur la prévention et en tout cas sur peut-être un petit peu le avant, ou en tout cas pas lorsque la consommation est déjà un peu plus ancrée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le rôle des actions de prévention au sein de l'association Le Mail, ou est-ce que vous pouvez nous dire, bien sûr, et à qui ça s'adresse? Du coup, aux jeunes, on l'a bien compris.
Alors ça s'adresse à tout le monde en fait. La prévention, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour des entreprises qui ont besoin de mettre en place de la prévention au sein de leur structure, c'est des associations, c'est effectivement des jeunes, mais pas que. Ça peut également être sur du festif, donc du festival où on va à la rencontre des personnes. Également le jeudi soir, ça c'est plus les collègues du CARUD et de Vie, je pourrais peut-être en parler davantage, mais j'ai jamais participé, mais
alors nous en fait le jeudi soir on intervient sur le secteur de Saint-Leu à Amiens avec une unité mobile. Donc maintenant on mixe les équipes. Avant c'était principalement la prévention et le CARUD. Aujourd'hui on a des collègues du XAPA qui peuvent venir et on intervient pour faire de la prévention, de la réduction des risques, distribution de matériel de réduction des risques. Et puis, c'est comme on peut aussi faire des tests rapides d'orientation diagnostique. C'est des tests qui permettent de détecter les hépatites, le VIH. Donc on peut rencontrer aussi des personnes dans le camion où on peut faire ce test-là, et voilà, c'est aussi une autre façon du soin et de l'accompagnement. Et on intervient aussi parfois avec cette unité mobile sur les milieux festifs où on a exactement les mêmes missions.
C'est vrai que du coup dans le service jeune, il y a effectivement une partie de prévention qui s'adresse à tous, parce que l'idée de la prévention c'est d'être là avant le début des consommations, c'est-à-dire pour donner une information sur les produits, sur ce qui est les consommations, sur le pourquoi est-ce qu'on peut être amené à consommer, en tout cas faire réfléchir sur cette idée-là de consommer ou pas dans sa vie, et pourquoi est-ce qu'on le ferait et pourquoi est-ce qu'on le ferait pas. Donc finalement c'est une intervention qui peut convenir à tous en fait, tout à chacun peut avoir cette réflexion là. Donc la prévention elle est surtout là-dedans. Et après il y a la partie consultation jeunes consommateurs où moi je travaille. Là il y a un peu les portes d'entrée sont un peu différentes, c'est-à-dire que généralement ceux qui prennent rendez-vous ont déjà testé. C'est-à-dire que là on n'est plus dans je pense à ou je voilà, c'est, on a déjà testé. Donc du coup après il y a ceux qui testent. Voilà, comme tout jeune, j'ai envie de dire, pas tous les jeunes, mais comme beaucoup de jeunes, on va dire, c'est un passage adolescent, donc on peut avoir envie de tester, en soi c'est pas un problème, mais c'est à partir du moment où on commence à avoir des conséquences négatives sur sa vie, c'est-à-dire que finalement les parents commencent à s'inquiéter, on commence à avoir des difficultés scolaires, quand les difficultés commencent à s'accumuler autour, finalement il finit par arriver à l'association, et à partir du moment où il me rend compte, c'est que déjà il y a déjà eu finalement des alertes ailleurs, et souvent les jeunes qui arrivent, c'est poussé un peu par les parents, poussé par s'ils sont en institution, ça peut être aussi les foyers, ça peut être aussi Je suis en train de réfléchir à les éducateurs, les familles d'accueil, la justice aussi, les lycées. Effectivement, les lycées, les collèges. Donc, on va dire que ça commence à alerter l'entourage. Donc, à partir du moment où il arrive en consultation, c'est que déjà, voilà, les choses, il y a déjà des conséquences un peu négatives dans sa vie. Et donc, ceux qu'on reçoit, ils sont déjà dans des consommations, mais effectivement, pas dans des consommations qui sont là depuis très longtemps. Donc, ils peuvent déjà se questionner sur, on peut déjà les questionner à quoi ça leur sert, pourquoi est-ce qu'ils consomment, malgré les conséquences qu'ils observent, pourquoi est-ce qu'ils continuent. Donc, forcément, c'est que ils y trouvent un intérêt et l'idée, c'est de les aider à développer d'autres solutions que celles-là. Parce que pour les jeunes et pour tous ceux qui commencent, de toute façon, pas que pour les jeunes, mais quand on regarde le parcours de tous ceux qu'on accompagne, pour eux, c'est une solution, c'est pas un problème. Donc, avant de leur enlever leur solution, il faut déjà leur proposer autre chose, voilà, à côté. Donc tout le travail qu'on fait, c'est ça, que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Et après, nous, on accueille aussi les parents, l'entourage. Donc dans tout ce qui est prévention, il y a aussi finalement aussi tout le lien avec la famille, parce que les jeunes sont dans leur famille majoritairement, ou en tout cas soit en difficulté ou pas avec leur famille, et les familles sont inquiets par rapport à leur enfant. Donc du coup, et c'est souvent le lien parent-enfant aussi, où il y a pas mal de conflits aussi, où la consommation, elle cristallise les conflits entre les parents et les enfants, et ça permet d'avoir un lieu pour les parents pour pouvoir venir parler de leur inquiétude, finalement, même si leur jeune n'est pas encore prêt à venir, parce qu'on rencontre un psy, on rencontre un éduc pour parler de ses consos, à 15 ans ou à 16 ans, je veux dire, même moi, à 16 ans, je suis pas sûre que j'aurais envie de rencontrer un psy pour parler, quoi. Donc, du coup, au moins, les parents font au moins la démarche de venir parler de des soucis qu'ils peuvent avoir et des inquiétudes qu'ils peuvent avoir, quoi.
Et puis, pour revenir sur la prévention, c'est vrai que là, on sort d'un gros mois sans tabac, du coup, le mois sans tabac. C'est vrai que, du coup, tu demandais à qui pouvait s'adresser, justement, la prévention. Donc, nous aussi, on a la chance, oui, la chance d'intervenir auprès, par exemple, de publics d'IME, de foyers d'hébergement. On est allé aussi à l'école de la seconde chance. Donc, moi, je suis intervenue dans le cadre du mois sans tabac. Donc, c'était par rapport au tabac, cigarettes, cannabis, etc. Mais faut savoir que, voilà, ça reste des jeunes qui sont dans cette consommation-là. Et on a un peu cette casquette de, on a l'infirmière qui vient nous voir pour nous parler de tabac. Oui, enfin, c'est bon, c'est que c'est mauvais pour la santé, nanana. Elle va nous dire que faut pas fumer. Moi, je leur rappelle que je suis pas là pour leur taper sur les doigts, mais je suis juste là pour les avertir que, il y a des risques, il y a des dangers. Et puis voilà, c'est pas pour rien que le nombre de fumeurs diminue petit à petit, malgré tout, ces interventions-là servent, en fait. Même si eux, ils se rendent pas forcément compte à un âge où justement on a envie d'être un petit peu contre tout ça, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger, et c'est ces petites choses-là, en fait, qui font que ça bouge, et c'est ce que j'essaye de leur expliquer. Donc un public qui est pas forcément qui vient pas nous chercher, l'IME par exemple, enfin les publics en IME, les publics en foyer d'hébergement, surtout là on a intervenu en milieu rural. Voilà, ça reste des personnes assez isolées. Donc c'est quand même super, je trouve, de pouvoir nous se déplacer et justement pouvoir avoir un échange, en fait, avec eux sur les consommations.
Oui, effectivement, on n'est pas là pour taper sur les doigts et qu'on est juste à l'écoute, et qu'ils aient juste connaissance de la structure, c'est déjà un plus, parce qu'en plus, souvent, c'est en collectif, donc c'est pas l'endroit pour faire un entretien individuel, c'est du collectif, mais juste d'avoir déjà l'idée qui émerge dans le cerveau, de se poser des questions sur ces consommations, c'est déjà une belle carte, quoi.
Et après cette prévention, j'aimerais bien qu'on parle de la réduction des risques qui fait parfois polémique. Certaines personnes ne comprennent pas vraiment. Comment on peut définir ça, cette réduction des risques, et pourquoi c'est essentiel?
La réduction des risques, en fait, c'est... On peut la voir comme une première porte d'entrée vers le soin. C'est-à-dire qu'on est consommateur, on veut consommer, on n'est pas dans la démarche de soins, mais on veut bien consommer. Et pour bien consommer, c'est avec du matériel stérile, sans transmission de maladies. Ça peut être l'hépatite C, l'hépatite B, ça peut être le VIH. Enfin voilà, passons toutes les maladies possibles. Et ça permet aussi d'avoir aussi une veille sur les produits, parce que quand on est quand on vient dans un CARUD, on vient chercher du matériel, mais on vient aussi avoir des informations sur les produits, puisque on a une veille sanitaire sur les produits. Donc on a quelques collègues au CARUD, bon, j'en fais partie aussi, où on est formé justement pour analyser du produit et donner les répercussions que les produits peuvent avoir, de quoi ils sont composés. On fait aussi une alerte sur tout ce qui est overdose. Enfin, voilà. Il y a un accompagnement aussi par rapport à la consommation, mais aussi aux produits consommés. Et la réduction des risques, c'est vrai qu'on a souvent des a priori. Je l'entends souvent, vous les aidez pas à réduire, c'est vous qui les poussez à consommer. Ben, on peut dire que par exemple, lorsque les kits stériles d'injection ont été mis en place dans les années 80, fin 80, début 90, on a quand même réduit le VIH d'à peu près de 70 à 80%. Et encore, voilà, on a des taux aujourd'hui qui sont de plus en plus bas. Nous, par exemple, au CARUD, on distribue du matériel stérile dans les pharmacies. On a des distributeurs sur Amiens qui sont pas forcément visibles parce que ça ressemble à un distributeur lambda où la personne, elle vient, elle dépose sa seringue, elle a un jeton, elle prend un kit propre et voilà. Et ça permet aussi d'éviter que du matériel usagé traîne, parce que nous aussi dans notre mission c'est de récupérer les seringues, de les envoyer dans des endroits pour être incinérés. Voilà, donc on a aussi ce travail sanitaire qui est là derrière. Il y a un accompagnement global qui est encore là par la pluridisciplinarité. Je vois les collègues infirmières qui peuvent parfois faire ce qu'on appelle entre guillemets de la bobologie, où on peut soigner un début de nécrose parce qu'on s'injecte mal. On est aussi formés, nous, dans les CARUD, à l'injection, enfin à l'accompagnement à l'injection. Enfin, on n'aide pas les gens à s'injecter, mais on peut les accompagner dans la démarche de l'injection, de détecter un premier abcès, etc., etc. Donc voilà, la réduction des risques, elle est à la fois sanitaire, éducative, sociale, enfin voilà, elle est globale.
Sur le XAPA, au niveau de la réduction des risques, on est en train de travailler énormément dessus et donc se pose beaucoup de questions par rapport à tout ça. Faut savoir que depuis plusieurs années, il y a la méthadone qui est mise en place au sein de l'association. Donc du coup, on est un centre d'initialisation à la méthadone pour les personnes consommatrices d'héroïne. Et ça fait partie aussi de la réduction des risques, en fait, d'avoir de la méthadone qui est délivrée tous les jours par les infirmiers de l'association.
C'est quoi de la méthadone, du coup?
Alors, la méthadone, c'est un médicament de substitution à l'héroïne. Donc, il en existe d'autres, notamment le Subutex pour les plus connus. Mais du coup, chez nous, on délivre la méthadone avec un protocole bien particulier. Et c'est très réglementé, donc voilà. On essaye aussi de mettre en place, enfin de proposer à l'accueil des préservatifs internes et externes. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont proposées, donc on va essayer de mettre en place aussi la naloxone, qui est un spray nasal, pour éviter les overdoses. Donc du coup, c'est pas un produit qu'on peut se faire à soi-même, mais du coup, quand il y a une consommation à plusieurs, le fait qu'il y ait un ami qui en ait un, éventuellement dans l'attente des secours, ça peut sauver des vies.
Au-delà même du fait du traitement substitutif aux opiacés en général, même en fait, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément connaissance sur par exemple des problématiques tramadol ou n'importe quel opiacé en général, sur du traitement qui est légal du coup en plus, et des personnes qui deviennent addictes à ce genre de traitement, et c'est d'autant plus difficile de se rendre dans un lieu de soins pour traiter quelque chose qui était légal et qui était prescrit en primo intention pour des douleurs ou pour n'importe quelle problématique. Mais en tout cas, enfin, ça nous arrive aussi de prendre en soin ce genre de public.
Un des facteurs importants quand même autour de la consommation, c'est la question de l'isolement. Et du coup, nous, que ce soit dans la réduction des risques, mais avec les autres services aussi, mais l'idée de la réduction des risques, c'est quand même de permettre de garder du lien avec la société, avec la question du soin, avec la question de l'échange et d'accompagner des gens qui justement s'enferment dans une consommation, s'éloignent de plus en plus de la question du lien social, de la question du lien avec les services de l'État, les services publics. Nous, notre travail, c'est aussi justement de permettre d'avoir du matériel pour limiter les risques sanitaires, mais aussi de maintenir justement ce lien qui permet éventuellement de déboucher sur autre chose quand à un moment donné les personnes se sentent capables de raccrocher.
Je suis d'accord avec Mathieu, c'est vrai que ça permet surtout de garder aussi le lien, c'est-à-dire dans moi ce que j'entends dans la réduction des risques, c'est aussi le fait de d'accepter aussi que la personne ne veuille pas ne veuille pas arrêter. En fait, c'est-à-dire qu'on est dans une société où effectivement c'est plutôt l'injonction à l'arrêt ou l'injonction à voilà, faut surtout pas consommer. Enfin, de ce qu'on veut montrer. Après, il y en a plein qui continuent à consommer, justement de manière cachée, parce qu'elles savent très bien que en société c'est pas bien admis. Et le fait de pouvoir être dans un lieu où finalement, quand on dit qu'on accepte la réduction des risques, ça veut dire qu'on accepte que tu me dises que là en ce moment t'as pas envie d'arrêter et qu'on peut quand même t'accompagner même si t'as pas envie d'arrêter. Donc en te proposant voilà des alternatives comme comment mieux consommer, comment consommer pour que tu puisses aussi à côté continuer à faire des choses voilà si toi ne serait-ce que le but ce serait de au lieu de consommer toute la journée, j'ai envie de consommer qu'à partir de l'après-midi, comme ça le matin, ça me laisse le temps pour aller à des rendez-vous ou faire autre chose, ou en tout cas décaler mon début de consommation. On n'est pas dans l'arrêt, on n'est pas dans la diminution, mais on est déjà dans une réduction des risques pour la personne, c'est-à-dire que elle, son objectif, c'est quand même de s'insérer, d'aller à des rendez-vous, d'être le matin, de pas être trop défoncé pour pouvoir faire des choses, et ne serait-ce que cet objectif-là, il est déjà très bien. Et du coup, c'est ça aussi dans la réduction des risques qu'on en est là, c'est-à-dire que on accepte que la personne, elle décide de continuer, et puis ça lui va bien comme ça, et puis des fois, il y en a qui continuent finalement à consommer toute leur vie, mais qui, à côté de ça, ont un bien-être de vie, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler, ils peuvent, on va dire, avoir une vie tout à fait correcte, mais en ayant gardé leur habitude de consommation, plutôt le soir, ou plutôt le week-end, ou plutôt, il y en a plein qui on parle de consommation légale, mais je veux dire, l'alcool, c'est ça. Il y en a plein qui peuvent nous dire que, la semaine, ils consomment pas, mais par contre, tous les week-ends, ils se mettent bien. Donc, du coup, pour il y en a certains, ça leur va très bien comme ça. Ils arrivent à maintenir une vie ou qui leur convienne. C'est un équilibre qu'ils ont comme ça qui fonctionne. Le jour où ça fonctionnera plus, ils se poseront des questions et ils viendront certainement. Mais pour l'instant, si ça fonctionne, ça fonctionne. Et puis, il y en a d'autres où, justement, cette manière de faire ne leur convient plus. Et ils se questionnent là-dessus, ils ont envie encore d'évoluer sur leur consommation. Et puis voilà, donc la réduction des risques, finalement, c'est suivant les personnes, en fait, et c'est propre à chacun. Mais c'est, en tout cas, nous, on l'entend ici, c'est la force de l'association, c'est qu'on sait accueillir aussi des personnes qui peuvent nous dire, non, là, aujourd'hui, je veux pas arrêter, je veux pas diminuer, mon objectif, il est pas là.
Ce qui me paraît important, moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est de lui demander pourquoi il est là, et pas parce que, et justement de questionner la demande de la justice, qui est pas la même souvent que la sienne, et de dire moi ce qui m'intéresse, c'est la vôtre. Qu'il y ait une obligation de soins ou que les gens soient orientés parce que leur famille les pousse à franchir la porte, ça c'est une donnée, mais c'est pas ce qui sera central dans l'accompagnement et dans la suite des choix de la personne. Donc l'idée c'est de plutôt que de travailler sur la question de la culpabilité, même si justement on y travaille beaucoup et on la prend en compte, c'est d'essayer de faire émerger plutôt la question de la responsabilité, de la question du désir, de se questionner sur l'équilibre que j'ai dans ma vie, qu'est-ce que je veux en faire. Ou est-ce que la suite c'est arrêter les consommations, mais dans ce cas-là, faut que je questionne le rapport que j'ai au produit. qu'est-ce qu'il vient faire, quelle fonction il a dans ma vie et quelle place il a dans mon parcours. Et ça, on peut le faire à différents stades. C'est-à-dire que quand on est au CARUD, et même si on est l'objectif principal, c'est la RDR, et que les gens sont normalement dans une période où ils ont des consommations actives, ça nous empêche pas de d'être dans le soin, dans la question de la demande. Parfois, justement, c'est un lieu où c'est plus simple pour les gens de parler, aller au centre de soins et être dans une rencontre qui peut être un peu confrontante parce que sous forme d'entretien, relation duel, plutôt formelle parce qu'il faut se fier à des horaires. Voilà, il y en a qui sont en difficulté pour rentrer dans cette dimension-là. Ça se fait par d'autres biais. Après, l'idée c'est de travailler le lien d'abord et après de pouvoir éventuellement réorienter, de voir où la personne en est, quoi.
Justement, tu parlais un peu plus tôt de l'insertion. Comment vous accompagnez les personnes vers l'insertion sociale, l'accès aux droits, au logement, à la formation, à l'emploi? Qu'est-ce que vous proposez au MAI?
Alors ça, c'est essentiellement le travail du l'accompagnement du travailleur social, en fait. Donc on a dans nos bureaux d'entretien, on a des ordinateurs qui sont mis à disposition de chaque personne accompagnée. Donc ceux qui ont des difficultés avec l'ordinateur, on va pouvoir faire les démarches à leur place. Après, ça dépend vraiment le niveau que la personne a avec l'outil informatique. Mais souvent, c'est eux qui le font, qui vont le faire. Et après, ça dépend aussi de leur demande, parce que voilà, s'ils ont besoin, par exemple, de déposer une demande de logement, on va pouvoir se connecter sur Internet et déposer la demande en ligne. Après, il y a des gens qui vont avoir besoin de leurs ouvertures de droits. Donc tout ce qui va être ouverture à la sécurité sociale, à la CAF, etc. Tout ça, c'est des démarches qu'on peut faire avec eux en ligne.
Même nous, en tant qu'infirmiers, on peut même proposer de la réinsertion aux soins. Parce qu'il y a souvent des personnes qui, de par leur train de vie dans les addictions, sont vraiment exclues du soin. Et les addictions, ou même de base, on peut avoir des problématiques de santé et on s'en soucie pas forcément. Donc nous, on peut même proposer des accompagnements. On peut proposer de prendre les rendez-vous ensemble parce qu'on sait que c'est très 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 chronophage et que ça peut être un peu compliqué de se réinsérer dans le soin. Donc c'est quelque chose qu'on peut proposer aussi.
Alors ça, c'est un travail qui est effectivement très intéressant avec la relation, enfin en tout cas moi de mon côté, la relation travail social et infirmier, parce que du coup en entretien on détecte des choses et du coup on va travailler sur la pluridisciplinarité avec les collègues en disant bah tiens machin aimerait bien être accompagné parce qu'il a pas été chez le dentiste depuis, mais sauf qu'il arrive pas à le faire tout seul, donc est-ce que toi tu peux l'accompagner. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on fait physiquement, donc là on le fait avec les outils informatiques comme je disais tout à l'heure, mais on peut également accompagner une personne qui serait en difficulté à se déplacer parce qu'il y a plein de barrières, il existe plein de barrières, les barrières qu'ils se mettent aussi, et du coup on peut les accompagner physiquement ou les collègues de l'infirmerie peuvent les accompagner également en démarche de santé.
Surtout que souvent il y a cette appréhension aux soins, ça peut générer de l'anxiété, on n'a pas forcément envie, le diagnostic fait peur. Donc nous on essaie aussi de rassurer sur ça et d'accompagner au mieux possible au niveau du soin. Ouais.
C'est vrai que nous, par exemple, sur le CARUD, c'est un travail qui est hyper important. C'est pour ça que c'est hyper important de travailler avec une assistante sociale, par exemple, donc qui est dans notre service, qui propose vraiment des rendez-vous en individuel. Parce qu'en fait, c'est ça le CARUD. Le problème, entre guillemets, c'est que c'est un accueil qui est collectif, où il y a beaucoup de monde, ça brasse du monde. C'est un peu urgence de la rue, entre guillemets. Et c'est vrai qu'en première intention, ça va pas forcément être pour eux, en tout cas, la réinsertion et l'accès, on va dire, aux soins notamment. Et c'est pour ça que nous, enfin, c'est pour ça que chaque domaine est hyper important. Et voilà, c'est hyper important de pouvoir les catégoriser, parce que, par exemple, moi, en tant qu'infirmière, faire des démarches sociales dans un but de recherche de logement, démarches par rapport au 115, etc., ben ça va pas forcément être dans mes cordes, même si évidemment on essaye d'apprendre aussi sur le terrain, Mais voilà, tout ça pour dire que au CARUD aussi, même si c'est pas une première intention, c'est quand même hyper important d'apporter voilà cet aspect-là de voilà, on peut vous accompagner, on peut être là pour ça et pareil que au XAPA, on fait beaucoup d'accompagnements aussi médicaux. Enfin, on a beaucoup de, par exemple, je sais pas, des personnes, des dames qui veulent avorter. Bah en fait, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est un geste qui est hyper compliqué. Bah on va leur proposer prise de rendez-vous, accompagnement. Enfin, voilà, ça reste assez global et dans n'importe quel service, on essaie de se rendre disponible, quoi.
Sur le CARUD, par exemple, que ce soit les démarches administratives ou même les démarches médicales, l'idée normalement c'est de pas recréer une dépendance. Donc ce serait de travailler sur les notions d'urgence, sur de manière ponctuelle avec les gens qui arrivent plus à accéder au dispositif de droit commun. Et donc c'est là où notre spécificité, c'est justement d'intervenir à ce moment-là, de venir pallier aux difficultés ou soutenir dans les difficultés pendant cette période-là. La réalité, c'est que on aimerait pouvoir réorienter sur les dispositifs de droit commun pour certains qui sont vraiment très ancrés dans leur dépendance et dans leur fragilité et dans leur marginalité aussi. La réorientation est parfois compliquée, mais ça reste quand même l'objectif. C'est voilà, pendant un temps on accompagne, on soutient. Si on peut justement leur permettre de plus avoir besoin de nous à un moment donné, tant mieux.
On peut proposer des solutions entre guillemets aussi à court terme. On propose d'appeler avec eux le 115, par exemple. C'est ce que je disais tout à l'heure, qui est une solution, c'est vrai, à court terme. Et après derrière, voilà, ils sont dans une boucle où justement, une fois qu'ils sont voilà dans le système du 115, après ils peuvent bénéficier éventuellement de d'hébergement, enfin de foyer, etc. Donc voilà, on essaye d'être un petit peu voilà cette porte d'entrée là, même si il faut accepter aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie d'être insérées et qui n'ont pas du tout envie de bénéficier d'un hébergement, par exemple. Parfois on a un peu envie justement de le faire à leur place, de le faire pour eux, mais non, ils nous disent ben non, moi j'ai envie de rester à la rue, j'ai envie de rester comme ça et j'ai pas forcément envie d'aller plus loin, quoi. Donc, ok, pas de souci.
Pour faire écho à ce que Margot disait, nous, notre pluridisciplinarité au CARUD, c'est aussi le partenariat, parce que on oriente le 115, les structures d'hébergement d'urgence, voilà. Nous, on est une première porte d'entrée, on laisse de toute façon la porte ouverte où on a des accueils collectifs qui sont quand même assez importants. Ils savent qu'on peut les accompagner dans une démarche, mais on va pas faire à leur place, on va les accompagner pas à pas. S'il y a possibilité de les accompagner jusqu'au bout, on va le faire, il n'y a pas de problème. Mais si on peut aussi travailler avec les partenaires, on va les solliciter sans problème. On a des temps un peu plus calmes au CARUD, qui sont par exemple le mardi matin, on a un temps consacré aux femmes, où elles peuvent venir, où elles peuvent faire des démarches, qu'elles soient médicales, sociales, droit commun de manière générale. C'est aussi des moments aménagés qui permettent aux personnes qui ont envie de faire des démarches de les faire. Pour les hommes, ça va être plus le jeudi après-midi avec notre collègue assistante de service social. Voilà.
Et puis c'est vrai que le rôle, pour revenir au rôle du travailleur social, c'est vrai qu'il est quand même très important aussi, parce que comme on parlait, voilà, quand on parle d'addiction, on peut pas travailler sur les consommations si à côté de ça, on a un problème, on sait pas où on va dormir le soir, on sait pas, on a des difficultés financières, on sait pas ce qu'on va manger, on sait pas, donc on est pris plutôt dans l'urgence du quotidien, donc pour pouvoir avoir le temps de se poser, de réfléchir sur ses consommations. Si on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas ce qu'on va manger, on ne sait pas comment on va boucler la fin du mois, bon, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, le travail social, il est quand même essentiel. C'est pour ça que voilà, on travaille en équipe, c'est-à-dire que si pour la personne la priorité c'est effectivement savoir où gérer le quotidien, c'est peut-être la priorité, elle est d'abord là, et puis après on verra le reste par la suite. Donc c'est vrai que la première porte d'entrée, c'est souvent le social aussi, c'est leur demande au-delà du médical, c'est aussi quand on leur dit voilà, pour si tu veux réduire tes consommations, il faut que tu puisses être occupé. S'occuper, c'est aussi trouver une occupation, c'est pas forcément un travail, mais c'est trouver des occupations, c'est aussi tout l'aspect insertion, comment est-ce qu'on s'occupe, que ce soit du bénévolat, que ce soit le lien à l'autre, de faire du sport, enfin qu'importe, mais voilà, c'est s'insérer dans une société, quoi.
On parlait du coup de l'aspect pluridisciplinaire, mais il permet aussi et surtout de travailler un peu tous les aspects qui sont venus poser problème dans la vie des usagers. C'est-à-dire que la consommation en soi, on pourrait dire que c'est pas le nœud du problème, c'est ce qu'elle génère. Qu'elle génère au niveau médical, ce qu'elle génère au niveau social, et en fait l'idée c'est de travailler sur tous les aspects qui viennent poser problème dans la vie des patients ou des usagers, et pas forcément de se focaliser sur la consommation, parce que des consommations il y en a qui sont moins problématiques parce que à un moment donné elles viennent prendre moins de place dans la vie des gens. Donc voilà, on travaille un peu sous ce format là.
Et quels seraient selon vous les leviers, les choses à faire en priorité pour améliorer justement l'accompagnement pluridisciplinaire ?
La première pensée qui me vient, c'est comprendre ce que chacun fait, en fait. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Parce que sans ça, clairement, on sait pas nous-mêmes où on va, en fait. Et ça peut être un petit peu un piège, voilà, de pas connaître ce que fait chacun.
Dans un monde rêvé, ça serait ce qui serait vraiment le top, c'est qu'il y ait aucune stigmatisation, que la parole soit libérée, qu'on puisse aller vers l'autre sans aucun problème et développer tout un tas de choses et avoir vraiment un espace sécurisant, libre, non jugeant. C'est ce qui serait vraiment top.
Moi, je dirais changer les représentations et aussi avoir peut-être un peu plus de structures d'hébergement, parce que c'est vraiment un frein aujourd'hui dans l'accompagnement du soin. On a des personnes qui dorment à la rue tous les soirs. On appelle le 115 avec eux. Ils appellent le 115. Il faut qu'ils rappellent à 21h. À 21h, ils ont toujours pas d'endroit pour dormir. Ça, c'est vraiment un gros frein. Et sur Amiens, on le rencontre assez souvent. Et là, surtout en période hivernale, ça va être compliqué.
Oui, c'est vrai qu'au niveau des stigmatisations, c'est quand même moi quelque chose qui me pose vraiment souci, dans le sens où, par exemple, on entend énormément de personnes qui ne veulent pas donner d'argent aux personnes qui sont à la rue, parce que justement, ils ont peur que ces personnes-là aillent consommer. Sauf que il faut se mettre en tête que s'ils consomment, c'est parce qu'ils sont dans des conditions qui sont extrêmement dures, et que c'est peut-être une des seules façons qui peut justement les faire tenir, en fait, pour pouvoir vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Donc moi, ça me rend un peu dingue, en fait, aujourd'hui, quand j'entends je vais pas lui donner 1 euro, il va aller s'acheter une bière. Bah oui, mais en fait, à partir du moment où tu lui donnes, il en fait ce qu'il veut, et tu n'es plus responsable, en fait, de ce que tu donnes. C'est à lui d'être responsable, et ça te regarde plus, en fait. Et du coup ça c'est quelque chose que je pouvais peut-être me dire avant, et du coup de travailler effectivement dans ce milieu-là, ça m'a vraiment aidé à changer mes représentations. Et puis si cette personne peut passer, on va dire, une nuit dehors dans des meilleures conditions, ça lui appartient, et voilà.
Et même si on peut changer les représentations, même des usagers eux-mêmes, parce que souvent quand ils arrivent en entretien ou quoi que ce soit, même eux-mêmes ils sont déjà dans un certain mal-être, et ces stigmatisations, ça vient un peu engrainer ce mal-être qui peut déjà être présent. Donc ouais, ce serait, c'est pour rejoindre un peu ce que disait Margot.
Moi, je pense qu'il faudrait que les pouvoirs publics, enfin, ce soit vraiment géré par les pouvoirs publics, en fait. Tout à l'heure, tu parlais de plus de lieux d'hébergement, mais il faudrait qu'il y ait plus de plein de choses, en fait. Plus de professionnels pour accompagner, plus de lieux d'hébergement, effectivement. En France, on a quand même que 2 salles de shoot, puisque c'est comme ça qu'elles sont appelées. C'est pas exactement des salles de shoot, en fait. C'est des lieux où il y a des consommations qui peuvent être entourées et encadrées. S'il y avait effectivement un petit peu plus de lieux pour accompagner les personnes, ce serait vraiment l'idéal.
Moi, pour la vie rêvée, je dirais, on va dire que la prise en charge idéale pour moi, ce serait une prise en charge déjà pluridisciplinaire. Donc nous, on est déjà, on touche un peu l'idéal entre guillemets, parce que je trouve que c'est quand même une chance qu'on a. Mais après, ce serait finalement nous laisser le temps, parce que je trouve que de plus en plus, on est un peu dans faire comme les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut des objectifs, il faut qu'ils soient insérés, il faut ci, il faut ça, et ça c'est les injonctions de la société. Et finalement, d'être dans le médico-social et dans le soin et d'être pris dans ces injonctions-là d'entreprise et de société où il faut qu'à la fin, il faut qu'il ait fait 5 rendez-vous, en 5 rendez-vous, il faut que ce soit réglé, il faut que dans un an, il faut qu'on ait coché la case insertion, il faut qu'il ait un travail, on va dire qu'on rentre dans ce système-là. Pour moi, la vie rêvée, ce serait qu'on nous laisse le temps, et le temps long, et que si la personne, il lui faut 10 ans, il lui faut 10 ans. S'il lui faut 3 rendez-vous, il lui faut 3 rendez-vous. S'il lui en faut 15, il lui en faut 15. Enfin, qu'on fasse avec ce temps long, ce temps de la réflexion qu'on a de moins en moins dans la société actuelle, quoi.
Aujourd'hui, on est beaucoup dans la culture du rendre compte et des chiffres. Et du coup, ça fausse un petit peu le débat. Là, aujourd'hui, nous, le travail, je suis pas sûr qu'il soit plus qualitatif, parce que on rend plus de chiffres ou parce qu'on est plus contrôlé. Je dis pas que il faut pas faire attention et devoir rendre des comptes, c'est important, mais le rendre compte peut être plus axé sur le qualitatif que sur le quantitatif. Quand on voit des chiffres et des chiffres et des chiffres, à un moment donné, on est très loin de la réalité du terrain, et parfois, à force de donner des chiffres, on est plus là où on devrait être. Donc ça, c'est une question importante pour nous, travailleurs sociaux, médico-sociaux, médical aussi, je pense, tout court. Et ça prend énormément d'énergie, de temps aux professionnels, pour, je pense, beaucoup moins de résultats que ce qu'on peut en dire. Voilà. Et la question, elle est aussi autour du coup des représentations, du jugement. Et pour moi, c'est le nerf de la guerre un petit peu. C'est quel regard on va avoir, quel regard on va donner. Ce qui est important, c'est peut-être parfois plus ce qu'on montre que ce qu'on vit. Et c'est cette chose-là qu'il faudrait peut-être re-questionner.
Eh ben, merci à tous et à toutes d'avoir répondu à mes questions. On le rappelle, vous pouvez contacter le MAI sur le site. Est-ce que quelqu'un peut donner quelques petites façons de contacter le MAI?
Alors, on peut contacter l'association sur notre site internet www.asoc-lemaille.net et aussi par téléphone au 03 60 12 26 27.
Donc ça, c'est pour le XAPA et pour la consultation jeune consommateur. Vous pouvez les contacter au 03 60 12 26 00, que vous soyez jeune ou parent ou entourage. Voilà.
Merci beaucoup à tous, et on l'a bien vu en tout cas aujourd'hui, l'équipe du MAI au complet sera prête à vous entendre, accueillir, vous aider dans tous les domaines possibles et imaginables. Merci beaucoup à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos services, nos actions et nos projets, rendez-vous sur notre site internet asoc-lemaille.net ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux sous le nom de Association Le Maille. Vous y trouverez plus de détails sur nos services et accompagnements. À très bientôt pour un nouvel épisode de Loin des clichés.
Cette émission est réalisée en partenariat avec Radio Campus Amiens.